Et oui, qui n'a pas un jour rêvé de tout plaquer, la ville, son boulot, pour aller vivre comme un Robinson à la campagne? Brian Éjarque a réalisé ce rêve à 32 ans. Il y a 3 ans, il a quitté le métro, boulot, dodo de la vie parisienne pour s'installer dans le Tarn avec un projet fou, devenir autonome. Bonjour Brian Éjarque.
Bonjour Isabelle.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, votre histoire, vous la racontez dans un livre. Il s'intitule « Oser quitter la ville ». C'est aux éditions Ulmer. Vous avez également une chaîne YouTube. Elle s'appelle Archipel. 139 000 abonnés vous suivent et regardent vos aventures. Vous filmez les étapes de votre installation, vos trouvailles et celles d'autres néo-ruraux. Vous êtes une sorte de Robinson connecté, en fait, hein, Brian Éjarque.
Oui, c'est vrai que souvent, quand j'ai entendu Robinson Crusoé, j'ai fait des grands yeux. Je reste connecté, mais j'essaye de réduire cette vie qui était un petit peu trop rapide en région parisienne. Et maintenant que je suis dans le Tarn, je ralentis, mais tout en restant connecté.
Alors justement, comment j'ai composté mon ancienne vie, c'est le sous-titre de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi elle ressemblait, votre vie d'avant?
Alors, la vie d'avant, à cette heure-là, j'étais réveillé depuis très longtemps. J'étais en train de faire du coude à coude dans les transports avec ma communauté de zombies. C'est-à-dire qu'on allait dans une direction, on savait où on devait aller, au boulot. Et on ne se regardait pas, on tirait la tronche parce qu'on avait tous nos petits problèmes. Et je courais dans tous les sens pour arriver au travail. Après, je travaillais dans l'événementiel. J'étais technicien audiovisuel à la Défense. Où se passait toute une journée avec un repas de midi qui était très vite avalé. Et le soir, on rentrait sans savoir réellement à quelle heure on allait rentrer parce qu'il y a toujours un incident de voyageur, un Covid suspect, des grèves. Et je rentrais le soir un peu trop tard et à la fin de la journée, je fermais mes yeux en me disant en fait que c'est allé très vite dans la journée. J'ai pas eu l'impression de trop faire grand-chose pour moi.
Et oui, vous écrivez dans votre livre que vous étiez comme un hamster dans sa roue, une impression qu'on a tous plus ou moins vécu à un moment dans son existence. Qu'est-ce qui vous pesait particulièrement, Brian Éjarque, à ce moment-là?
Alors moi, ce qui me pesait, c'est que j'avais l'impression d'avoir à en faire toujours plus, mais que dans ma vie, je suis issu de classe moyenne, je gagnais aux alentours de 1 500 euros, et que j'avais l'impression d'être juste un consommateur, et que... Je faisais pas grand chose et qu'il fallait que je fasse de plus en plus de choses pour continuer à avoir ce salaire et tout s'accélérait. Donc je me disais, il y a un moment, il va falloir sortir de la roue, sinon je sens que je vais me faire happer par mon mode de vie.
Vous écrivez, hein, pourquoi est-ce que je travaille 35 heures par semaine et que tous les mois je suis dans le rouge à partir du 20 sans jamais avoir l'impression de trop consommer et de vivre dans l'excès? Alors, Brian Éjarque, le déclic a eu lieu justement devant votre banquière. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode croustillant dans votre livre?
Alors, je me suis retrouvé un jour sur une renégociation de prêt immobilier. Et je m'étais endetté donc sur 25 ans pour avoir, dans un futur plutôt éloigné, être propriétaire d'un appartement de 19 mètres carrés. Et quand elle m'a annoncé, des remises sur le prêt, j'allais être propriétaire à l'âge de 47 ans, j'en avais 32 à l'époque, là j'ai commencé à me dire, mais ça représente beaucoup, beaucoup d'années, et est-ce que dans toutes ces années, je m'imagine encore vivre dans cet appartement? Alors, ça aurait pu être un bon investissement après pour le relouer, etc.
Oui.
Mais je me suis projeté personnellement, et je me suis dit, mais c'est pas du tout la vie que je veux. Moi, je trouve ça excessivement cher. L'appartement coûtait aux alentours de 100 000 euros, 92 000 précisément. Et je me suis dit, mais c'est extrêmement cher pour la surface que c'est. Et surtout, ça ne me permet pas de trop d'évoluer. C'est trop peu de place.
Ça ne vous a pas grisé, être propriétaire de 19 mètres carrés à 47 ans, c'est vrai que sur le papier comme ça, ça ne fait pas faire des bons. Alors pour saisir le contraste, aujourd'hui, c'est quoi votre cadre de vie, Brian Éjarque?
Alors maintenant, j'ai une petite maisonnette dans le Tarn. Je dis petite, mais c'est vrai que maintenant, c'est énorme par rapport à ce que j'ai. Donc elle fait 25 mètres carrés au sol et 13 mètres carrés de mezzanine. Donc vraiment là, je passe sur quelque chose. C'est du haut standing. Et surtout, j'ai la chance d'avoir 3 000 mètres carrés autour de cette maison en plein milieu de la nature. Je suis au pied de la Montagne Noire dans le Tarn. C'est vrai que c'est un paysage magnifique et ça n'a pas à rougir face à un paysage parisien.
Ça n'a pas de prix. Alors, vous êtes
Ah
près
oui.
de Gaillac, hein, je crois. Vous êtes installé là-bas parce que vous aviez des attaches familiales. Vos parents y étaient installés depuis peu. Votre projet, Brian Éjar, qu'est-ce que vous décrivez dans votre livre, hein, Oser quitter la ville et qu'on feuillette ensemble ce matin. Votre projet, c'était de devenir autonome. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie devenir autonome? Ça se traduit par
Alors,
quoi?
oui, c'est vrai que, alors, entre la vision de l'autonomie que j'avais avant de me lancer et la vision actuelle, c'est vrai qu'il y a un fossé. Je pensais que je pourrais devenir très rapidement autonome alimentairement parlant. Et maintenant, après 3 ans, après avoir planté 150 arbres qui poussent de jour en jour, mais qui ne fructifient pas encore pour l'essentiel de ces arbres. C'est vrai que je me dis que c'est pas le plus simple. Par contre, ce qui a été très simple, ça a été tout ce qui est installation électrique, installation de l'eau. Je pensais que ce serait technique et trop technique même, parce que c'est vrai que je n'étais pas très bricoleur. Et en fait, ça s'est vraiment fait rapidement parce que les systèmes qui sont créés de nos jours sont vraiment basiques, ils sont simples. Là où le photovoltaïque était compliqué il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est ce qu'on appelle en anglais du plug and play. Donc, il y a vraiment juste à voir où sont les bons branchements à faire et ça fonctionne nickel.
Et pourquoi c'était important pour vous cette autonomie, cette quête d'autonomie, elle signifiait quoi?
Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, de produire mon énergie, de stocker l'eau et surtout ici dans le Tarn, l'eau, on sait à quel point elle est de plus en plus rare quand on a 3 mois d'affilée en été. Déjà, c'était de comprendre l'énergie et de comprendre d'où venaient ces factures que j'avais à la base à Paris. Et quand on crée soi-même de l'électricité, quand on a à gérer l'eau, la stocker, la cheminer, la filtrer, et ben là, on a vraiment le respect des éléments et de l'énergie. Et c'est vrai qu'on ne gâche pas naturellement. Là où, avant, j'appuyais sur un bouton et puis c'était juste mon fournisseur qui s'occupait de tout. Et puis après, je faisais des grands yeux quand je recevais la facture. Et après, ça a été le manque de goût. C'est vrai que la nourriture devient, parce que là, je suis remonté 2 jours sur Paris pour faire la promotion du livre, et ça n'a pas changé. La nourriture devient insipide si on n'a vraiment pas un gros, gros budget à y mettre dans Paris. Et moi, je voulais quand même avoir des bonnes choses à goûter. Je voulais me produire le minimum syndical. Donc là, c'est assez compliqué parce qu'il y a des choses entre ce que je vous disais, entre ce qu'on imagine avant de partir et ce qu'on a actuellement. Je manque beaucoup d'eau, essentiellement en été. Donc je garde cette eau pour faire pousser les arbres. Et après, je m'attaquerai sur la partie du potager.
Et alors, il y a une idée de se reconnecter à la nature, au rythme des saisons, au plus près des arbres. C'est de cet ordre-là, votre projet?
Oui, alors souvent on dit reconnecter à la nature. Moi, en fait, je m'y connecte parce que je n'ai jamais été connecté à la nature. On vit hors sol quand on vit en ville. Et là, j'apprends à connaître la nature, à la découvrir, à la lire aussi. Parce que c'est vrai que les arbres ont beaucoup à nous apprendre. Notre sol nous apprend beaucoup. Les animaux autour nous apprennent énormément. Donc, c'est plutôt une connexion, une belle connexion.
Alors, ce parcours, hein, vous le racontez dans votre livre, Brian Éjar, que je rappelle à ceux qui nous rejoignent que nous sommes ensemble autour de ce livre, Oser quitter la ville de citadin à néo-autonomiste, comment j'ai composté mon ancienne vie, c'est aux éditions Ulmer. Vous racontez ce parcours donc dans votre livre qui se présente un peu comme le vade-mecum pour toute personne qui voudrait suivre votre voie. C'est plein de conseils sur comment installer des panneaux solaires, faire attention à l'ensoleillement du terrain, la nature de son sol, fabriquer les toilettes sèches et j'en passe. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place?
Le plus difficile, et donc ce livre, il a été coécrit avec ma sœur et on s'était dit vraiment qu'il fallait en parler. Pardon. Le plus difficile, ça a été en fait, quand je me suis lancé, il n'y avait pas beaucoup de documentation il y a 4 ans. Il y avait pas mal de choses en anglais, mais je trouve qu'il manquait énormément, énormément. Et c'est pour ça que j'ai eu le déclic de faire la chaîne YouTube aussi. Je me suis dit, mais autant partager, et puis de manière honnête, même avec les échecs, et surtout les échecs, et c'est ce qui plaît aux abonnés, autant partager tout ça, parce que, voilà, on a fait le livre qu'on aurait aimé, que j'aurais eu aimé avoir entre les mains il y a 4 ans. Donc,
oui,
parce
c'est
qu'il
souvent.
Était difficile... Pardon, excusez-moi,
Oui,
Isabelle.
c'est souvent effectivement comme ça, combler un manque. Et alors, Brian et Jacques, comment est-ce que les locaux vous ont accueilli? Est-ce qu'ils vous ont pris pour un fou? Est-ce qu'ils vous ont aidé? Est-ce qu'ils ont compris votre démarche?
Ah non, non, ici les locaux, déjà, il y a essentiellement pour ceux qui ont un jardin, naturellement, ils font un potager. Donc c'est sûr que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon ben on va bien s'entendre parce que j'ai énormément à apprendre. Et c'est vrai, bon, je pense pas que j'étais déjà un citadin trop difficile. Et, et là, maintenant que je vis ici dans notre petit village, après, je pense que quand on est souriant, qu'on veut s'intégrer, j'ai rejoint des associations, donc je pense que ça va très très vite le contact. Et j'avais de la famille ici, donc c'est vrai que les gens déjà ont l'impression qu'il y a une chape de plomb qui d'un coup se casse parce que les gens se disent ah ben donc ils connaissent un peu les coutumes ici et tout. Donc c'est vrai, souvent on dit un Parisien qui s'installe à la campagne, mais je faisais toutes mes vacances ici dans le Tarn, donc j'arrivais pas en terrain inconnu.
En terrain totalement inconnu. Je vous pose la question parce que je crois que quand même vos amis, vos proches n'y croyaient pas beaucoup à votre aventure, vous ont pris un peu pour un fou. On pariait sur le fait que vous reviendriez à Paris prochainement. Hein. Les gens comme vous, ils vont dans le Larzac. Hein. Ce sont des phrases comme ça que vous avez entendues. Brian et Jacques, ce qui vous permet de vivre aujourd'hui, vous nous l'avez dit, ce sont vos vidéos sur YouTube. Vous avez plus de 130 000 abonnés, c'est beaucoup. À terme, est-ce que vous pourriez vendre votre production agricole? Est-ce que ça irait jusque-là?
Alors, faut être honnête que enfin, sur 3 000 mètres carrés, c'est une très belle surface. Hein. Vraiment, c'est sûr qu'avoir ça en région parisienne, ce serait un lingot d'or. Mais en fait, c'est pas énorme quand on s'intéresse à l'arbre. Il y en a 150. Je sais qu'il y en a qui vont plus prendre le dessus sur les autres. J'aurais de la production. À un niveau familial, pour un verger familial, c'est vraiment très bien. Mais de là à vendre des productions, moi, je préfère échanger, parce que je sais que j'aurai du surplus dans quelques années. Et l'échange est beaucoup plus pratique pour pouvoir obtenir des choses que je ne pourrais pas avoir même en magasin. Par exemple, quelqu'un qui fait son potager, sa production d'une manière très clean, il y en a qui on appelle ça raisonné. Je préfère vraiment pouvoir posséder ça plutôt que avoir de l'argent et aller acheter des choses en magasin qui auraient un peu moins de goût.
Bien sûr, le don pourrait, effectivement, la logique du partage et du don pourrait être rejoindre votre projet. Qu'est-ce qui pourrait vous manquer de la vie d'avant? Probablement pas les plans comptables, hein. Vous en avez une sainte horreur, vous le dites dans votre livre.
Ben, alors, ce qui est très drôle, et j'en ai parlé avec mes amis là, lors de mon passage à Paris, je disais que ce qui aurait pu me manquer, parce qu'ici on a quand même pas mal, enfin on avait pas mal d'animation, c'est cette facilité de pouvoir, si on veut, aller rencontrer nos amis, d'avoir des choses ouvertes jusqu'à pas d'heure en région parisienne, sauf que maintenant ce n'est plus le cas. Donc j'ai vraiment du mal à trouver des qualités à la région parisienne. Là c'est vrai que c'est une question, maintenant c'est ce qui pourrait me manquer.
La vie culturelle peut-être.
Non, parce que ici on a beaucoup de musées, on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'associations qui organisaient des rendez-vous. Par exemple, chaque année, bon là ça va être peut-être compliqué cette année, mais quand on a des événements comme Biocibel ici dans le Tarn, c'est vraiment des événements qui durent tout le week-end et sur lesquels on apprend énormément de choses. Donc la vie culturelle est différente, mais elle n'a pas à rougir face à la vie.
Eh ben, vous avez bien raison de le dire. Un dernier mot, Brian et Jacques, ce retour à la terre, ce retour à une vie plus simple, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on connaît. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est l'avenir, selon vous?
Pour moi, c'est une nécessité. Je pense que, là, je vais vous parler vraiment à cœur ouvert. Nous, on est nés, on est une génération, je l'écris aussi dans le livre, on est une génération d'enfants de baby boomers qui ont juste eu à appuyer sur un bouton pour obtenir ce qu'ils veulent. Nous, ça devient encore plus simple, encore plus simple. C'est carrément, on appuie sur notre mobile et on a quelqu'un en 15 minutes qui peut nous amener tous les plats du monde. Mais je pense qu'au final, plus on se rapproche de ça, et encore une fois, je vous dis, je suis vraiment le premier à être connecté, mais il manque vraiment quelque chose et on s'est trop éloigné de la nature. On vit hors sol et quand on se reconnecte à tout ça, je pense qu'on se retrouve aussi. Et ça peut paraître basique hein, comme phrase, mais c'est vraiment une nécessité et les gens le sentent de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a autant d'engouement maintenant pour ce genre de chaîne, ce genre de livre, parce que les personnes se demandent pourquoi on s'est déconnecté comme ça, comment ça se fait qu'on se retrouve là, enfermé dans nos maisons pour certains. Je préfère vivre la crise sanitaire dans 3000 mètres carrés de jardin que enfermé dans mon petit appartement de 19 mètres carrés à Paris.
Eh bien, merci beaucoup, Brian et Jacques. Merci pour cette bouffée d'air frais hein, qui fait du bien le lundi matin. Votre livre, Osez quitter la ville, c'est aux éditions Ulmer. Votre chaîne YouTube s'appelle Archipel avec deux L. Merci à vous pour ce témoignage.
Merci beaucoup.